est 21h, à Paris 19h, temps universel. Merci d'écouter RFI.
Paul Lancin-Spinelli.
Rediriger ses électeurs vers un candidat en meilleure posture pour tenter de bloquer l'accession du Rassemblement National au pouvoir. C'est la manœuvre réalisée par plus de 210 candidats de gauche ou du camp d'Emmanuel Macron, qui s'était pourtant qualifié au deuxième tour des législatives en France. Alors que le parti présidentiel Ensemble pourrait enregistrer une lourde défaite dimanche, le Premier ministre Gabriel Attal jette toutes ses forces dans la bataille. Reportage à suivre. Aux Pays-Bas, l'extrême droite accède au pouvoir pour la première fois. Le parti de Geert Wilders, islamophobe et eurosceptique, s'est fait sa place dans le gouvernement, mais le numéro 1 de la formation n'a pas réussi à devenir Premier ministre. Jusqu'à 55 degrés Celsius ressentis à Karachi, au Pakistan. Situation sanitaire désastreuse amplifiée par des coupures de courant. Et puis en football, le dernier huitième de finale de l'Euro. Actuellement, l'Autriche affronte la Turquie. Il y aura quasiment trois fois moins de triangulaires que prévu au deuxième tour des élections législatives en France. Alors que les candidats avaient jusqu'à 18h, heure de Paris aujourd'hui, pour confirmer leur présence au second tour, 214 ont décidé de se retirer. En majorité, il s'agit de candidats du camp présidentiel ou du nouveau Front populaire, qui demandent donc à leurs électeurs de reporter leur voix sur un candidat mieux placé et adversaire du Rassemblement National. Pour autant, un éventuel gouvernement transversal alliant camp présidentiel et alliance de gauche n'est pas à l'ordre du jour, selon le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui rebondissait sur une idée de Gabriel Attal. Le Premier ministre avait évoqué une assemblée plurielle, mais sa priorité, Charlotte Urien-Tomaka, c'est d'abord la campagne de terrain pour son parti. Ce matin, Gabriel Attal battait le pavé dans le 17e arrondissement de Paris.
Il fait campagne tambour battant, staccanoviste pour cet entre-deux-tours. Pas moins de 3 circonscriptions en une seule journée. Et ce matin, il tente de clarifier les choses.
Désistement ne veut pas dire ralliement. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ni la France Insoumise, ni le Front Populaire ne peuvent avoir une majorité absolue. Quoi qu'il se passe, hélas, les seuls en capacité d'avoir une majorité absolue aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Il faut empêcher ça.
Le Premier ministre, qui ne cesse de marteler cette phrase, je cite « On compte sur vous dimanche prochain » auprès de tous les Parisiens qu'il croise. Opération sauvetage donc, et au moins 80% des personnes croisées lui posent la même question. Quelles sont les consignes de vote? C'est flou, on n'a pas compris, lui ont dit au moins 3 habitants. Et surtout, on ne comprend pas ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui refuse d'appeler à voter pour un candidat LFI, y compris pour faire barrage au RN. Des propos qui vont à l'encontre des consignes dictées par Gabriel Attal lui-même, qui a d'ailleurs répondu à son ministre de l'économie.
Moi j'ai fixé une consigne très claire. Je vois bien qu'il y a des prises de parole ou des positions qui sont différentes, mais l'important je crois c'est ma parole, moi qui mène cette campagne, et surtout ce qui se passe sur le terrain avec des candidats qui dans un certain nombre de circonscriptions se désistent.
Seul objectif donc pour le Premier ministre, continuer à tout faire pour que le RN n'ait pas la majorité absolue dimanche prochain.
Reportage de Charlotte Urien-Tomaka. Il aura fallu plus de 7 mois aux Pays-Bas pour voir un nouveau Premier ministre investi. Dick Schroef a pris son poste aujourd'hui. Il se retrouve à la tête d'un gouvernement de coalition qui inclut notamment l'extrême droite. 5 des 16 nouveaux ministres sont en effet issus du PVV, le Parti pour la Liberté de Geert Wilders, qui siège dans le même groupe que le RN, le Rassemblement National Français, au Parlement européen. Grâce à ses prises de position polémiques, trop de Marocains aux Pays-Bas, comparaison entre le Coran et Mein Kampf, Geert Wilders est arrivé en tête lors des législatives néerlandaises de novembre. Mais aujourd'hui, il s'est fait remarquer par son absence, Pierre Benazet.
Sur la photo de famille du nouveau gouvernement néerlandais, c'est Dick Schroef qui se tient à droite du roi Guillaume Alexandre. Dick Schroef, c'est le nouveau ministre-président, c'est-à-dire Premier ministre, un haut fonctionnaire apolitique qui a entre autres dirigé le service de renseignement des Pays-Bas. Mais le grand absent de cette photo, c'est Geert Wilders. Il a renoncé à devenir Premier ministre à cause des tensions avec les 3 autres partis de la coalition. 5 membres de son parti sont cependant ministres. Le PVV, le Parti pour la Liberté, détient un portefeuille ministériel clé aux yeux de Geert Wilders, celui de l'asile et de la migration, entre les mains de Marjolein Faber, qui par le passé a évoqué le grand remplacement, mais est revenu sur ses propos. L'accord de coalition prévoit un durcissement de la politique d'asile, avec la volonté de tenter de sortir des politiques migratoires européennes. Mais l'accord de coalition a aussi limité les ambitions de Geert Wilders, puisqu'il prévoit par exemple la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine, alors qu'il y était opposé. Les premiers chasseurs F-16 néerlandais doivent arriver incessamment à Kiev. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Lui va tenter de recoller les morceaux après sa prestation largement jugée comme catastrophique lors du débat télévisé face à Donald Trump jeudi dernier. Joe Biden donnera vendredi sa première interview depuis cet échange durant lequel son état physique a provoqué une vague d'angoisse jusque dans son camp, le camp démocrate. Il sait comment rebondir, déclare à l'instant sa porte-parole. Aujourd'hui, pourtant, Nancy Pelosi, ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, a avoué s'interroger sur la santé du président sortant. Pour la première fois également, un parlementaire démocrate a lui carrément demandé publiquement à Joe Biden de se retirer de la campagne. Les États-Unis qui vont envoyer une nouvelle aide à l'Ukraine. Le ministère américain de la Défense vient d'annoncer aujourd'hui que 2,3 milliards de dollars allaient être débloqués. Cela inclut de nouvelles armes anti-chars et de nouveaux moyens de défense anti-aérien. Peut-être moins de remous à venir en mer de Chine méridionale. Les Philippines et la Chine ont annoncé aujourd'hui avoir décidé d'une désescalade des tensions alors que des navires philippins et des gardes-côtes chinois se heurtent régulièrement en naviguant. La diplomatie de Manille a précisé que les deux parties avaient évoqué leurs positions respectives concernant l'atoll disputé de Seconde Thomas sans préjudice de leurs positions respectives. Le Pakistan suffoque. Depuis plus d'une semaine, une nouvelle vague de chaleur frappe le pays et notamment la capitale économique Karachi. Il fait 40 degrés Celsius si l'on s'en tient au thermomètre dans la ville portuaire, mais en réalité, avec le taux d'humidité, les 15 millions d'habitants sont écrasés sous 55 degrés ressentis. Selon la formation EDI, principale ONG caritative du Pakistan, la chaleur a fait de nombreuses victimes, les hôpitaux sont débordés et les morgues sont pleines. Zora Youssouf, présidente de la commission des droits de l'homme au Pakistan, dénonce les coupures de courant qui touchent avant tout les quartiers pauvres de Karachi et qui aggravent cette crise.
De nombreux quartiers subissent des coupures de courant quotidiennes qui durent 12 à 14 heures, voire plus. Cela concerne exclusivement les quartiers pauvres et ceux de la classe moyenne. Leurs habitants manifestent d'ailleurs tous les jours. Certes, il y a un problème de pénurie d'électricité, mais à Karachi, la compagnie d'électricité continue de fournir le courant aux quartiers qui payent régulièrement leurs factures. En revanche, dans les quartiers pauvres, où certains clients ont du retard dans leur paiement, la compagnie procède à une sorte de punition collective. Elle coupe le courant dans des quartiers entiers, pas seulement pour les foyers qui ne payent pas leurs factures. La conséquence, c'est que les habitants de ces quartiers n'ont plus aucun répit face aux températures extrêmes, et cela contribue au nombre très élevé de décès dus à cette vague de chaleur.
Zora Youssouf interrogée par Stéphanie Schuller. Autre phénomène climatique meurtrier dans les Caraïbes cette fois où l'ouragan Beryl a tué 4 personnes après avoir ravagé l'archipel de la Grenade aujourd'hui. La tempête classée à 1 degré de force maximale se dirige à présent vers la Jamaïque et l'île de Tobago. En France, Altis, la maison mère de la chaîne d'information BFM TV et de la radio RMC est passée aujourd'hui officiellement sous le pavillon de CMA-CGM. Patrick Drahi a cédé le groupe pour plus d'un 1,5 milliard d'euros à l'enseigne de fret maritime. Et son patron, le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadeh, prend donc la stature d'un acteur important des médias en France, Agnieszka Kumor.
L'armateur possède déjà plusieurs titres de presse, parmi eux le quotidien La Provence, acquis en 2022, ou encore le quotidien économique La Tribune, racheté en 2023. Cette ascension rapide suscite des craintes sur le plan de l'indépendance. Citons cette grève des journalistes de La Provence en mars dernier pour protester contre la mise à pied du directeur de la rédaction. Le traitement de la visite du président Emmanuel Macron à Marseille n'avait pas plu aux propriétaires du journal. Quant à BFM TV, numéro 1, il y a peu de l'information continue en France, la chaîne vient de se faire doubler par CNews, filiale de Vivendi du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré. Le très discret patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadeh, refuse d'être qualifié de mania de la presse, mais admet volontiers une approche industrielle des médias. On découvre un secteur, dit-il, et on monte en puissance. Le rachat de BFM TV et de RMC lui permettra de changer d'échelle dans ce domaine.
Agnieszka Kumor. Et puis il ne reste qu'une place dans le bus des quarts de finale de l'Euro de football. Et ce sont actuellement les Autrichiens et les Turcs qui se battent pour le décrocher. 10e minute de jeu, la Turquie mène 1-0. Un peu plus tôt, les Pays-Bas ont facilement fait flancher la Roumanie 3-0. RFI, 21h10 à Paris.